France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série consacrée aux nourritures, nous avons beaucoup parlé des plaisirs de la table. Aujourd'hui, explorons l'envers, le dégoût et aussi les troubles alimentaires. Le dégoût n'est pas, à soi seul, signe de maladie ou de trouble alimentaire. Le dégoût est bien normal lorsque la satiété est installée et qu'on sent qu'on ne pourrait plus rien avaler. Ou lorsque quelque chose nous paraît bizarre, pas normal, pas très frais. Le dégoût nous protège, sans nul doute. Il est d'ailleurs une réaction fréquente des enfants devant le nouveau ou l'étrange qu'ils préfèrent tenir prudemment loin de leur bouche. Inversement, certains troubles alimentaires ne prennent pas la forme du dégoût. L'hyperphagie, comme on dit, avec des difficultés à éprouver la satiété, fait plutôt considérer le dégoût comme un graal. On aimerait bien l'éprouver plus vite et plus souvent pour limiter enfin les quantités de nourriture ingurgitée. Il va nous falloir clarifier toutes ces notions. Qui de mieux à cette fin que deux philosophes et une psychologue ? Bonjour Claire Marga.
Bonjour.
Vous êtes docteur agrégé en philosophie, l'esthétique est votre domaine de prédilection. Vous êtes d'ailleurs critique d'art. Les articles de vous qui nous intéressent pour l'émission d'aujourd'hui sont précisés sur notre site avec toutes les références. Il y est question de phénoménologie du dégoût, de Georges Bataille et de Jean-Paul Sartre face au dégoût, ou encore de la différence entre dégoût et horreur. Bonjour Pierre Léger.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie. Vous enseignez l'esthétique à l'université Aix-Marseille et vous avez notamment co-diriger un ouvrage collectif paru aux presses universitaires de Provence en 2022, intitulé « Jusqu'à la nausée, approche pluridisciplinaire du dégoût aux époques modernes et contemporaines ». Et bonjour Rebecca Shankland.
Bonjour.
Vous êtes à distance, à Grenoble, mais bien avec nous en duplex. Merci aux équipes d'ICI Isère pour cette liaison. Vous êtes professeur de psychologie du développement à l'Université Lumière Lyon 2. Vous avez publié en 2018 chez Lamartinière Jeunesse un guide pour comprendre l'anorexie. Et en 2020 chez Duno, un ouvrage intitulé « Les troubles du comportement alimentaire, prévention et accompagnement thérapeutique ». Alors commençons par un échange avec vous, Rebecca Shankland, pour éclairer la notion de trouble alimentaire. Alors j'ai compris que le terme exact est désormais trouble du comportement alimentaire ou trouble de la conduite alimentaire. Quelles sont les grandes catégories de troubles dans ce domaine ?
Alors on retrouve trois grandes catégories. Alors souvent la plus connue et la plus médiatisée, c'est l'anorexie, avec cette tendance à une restriction alimentaire très forte qui s'accompagne en fait d'un dégoût intense par rapport à la fois à l'alimentation, mais aussi un dégoût de soi lorsqu'on consomme des aliments notamment gras et sucrés. Donc ça entraîne finalement une perte de poids importante, donc avec des personnes qui se retrouvent parfois dans des situations critiques. Et une deuxième catégorie qui est un peu le pendant, c'est-à-dire plus on a été dans ces phases de restriction, plus on a aussi de risques de développer des comportements de boulimie, c'est-à-dire des crises de consommation de grandes quantités d'aliments et de calories. Hein, ça peut aller jusqu'à 2000 calories en une crise, c'est-à-dire ce qu'on mangerait habituellement sur la journée, et qui s'accompagne aussi de dégoût, mais plutôt du dégoût par rapport au comportement qu'on a mis en œuvre, par rapport à cette crise et par rapport à soi-même. Donc ce qu'on retrouve vraiment dans l'anorexie et la boulimie, c'est de manière très prégnante le dégoût de soi, qui est un prédicteur très important de la gravité du trouble et des symptômes anxieux et dépressifs. Et s'accompagne du coup d'un dégoût de l'alimentation, parce que en ingérant ces aliments, on va avoir une augmentation du dégoût de soi. Et puis la troisième catégorie, qui est en fait plus répandue, mais moins connue, moins médiatisée, c'est l'hyperphagie. C'est une tendance à consommer une grande quantité d'aliments, plutôt des aliments plaisir, hein, donc des aliments à haute teneur calorique et qui nous font du bien sur le moment, mais qui ensuite peuvent générer un sentiment de honte. Donc ça s'accompagne aussi d'une souffrance psychologique, mais avec une moins forte présence de cette question du dégoût, de cette émotion du dégoût. On est aller davantage dans une impossibilité finalement de s'arrêter par plaisir de manger, par attraction de la nourriture, jusqu'à consommer effectivement des quantités très très importantes.
Donc dans cette dernière catégorie, l'hyperphagie, je présume qu'il peut, on peut aussi traiter certains cas en les qualifiant d'addiction. Il doit y avoir des addictions, on parle parfois d'addiction au sucre. Est-ce que vous les classez en effet dans l'hyperphagie ?
Alors, en fait, on classe l'ensemble des troubles des comportements alimentaires dans cette catégorie d'addiction comportementale, parce que les personnes se retrouvent en grande souffrance par rapport à ce comportement, mais n'arrivent pas à arrêter parce que c'est leur manière finalement de pouvoir surmonter les difficultés du quotidien, pouvoir survivre malgré les difficultés du quotidien. Donc, soit en contrôlant très fortement l'alimentation, soit effectivement en profitant des moments plaisir, ce qu'on retrouve dans l'hyperphagie. Donc oui, on pourrait considérer qu'il y a une forme d'addiction au sucre qu'on retrouve dans cette catégorie de troubles.
Et en tout cas, dans cette catégorie, vous nous le dites, le dégoût finalement a presque du mal à être éprouvé.
Alors ça, oui, ça serait presque un soulagement pour ces personnes de pouvoir éprouver plus de dégoût au moment où l'ingestion alimentaire se fait. Ça ne veut pas dire qu'elles n'éprouvent pas du dégoût par ailleurs, parce qu'il y a quand même une attraction envers certains types d'aliments, hein, parce que les personnes qui ont par exemple des lésions cérébrales qui altèrent les zones du goût, ce qu'on appelle le syndrome de Kluver-Bucy, sont susceptibles de manger par exemple du cirage ou des excréments, parce qu'en fait ça ne génère pas de dégoût. Donc là, il y a quand même bien sûr une activation du dégoût, mais beaucoup moins forte que chez les personnes concernées par des problématiques d'anorexie ou de boulimie.
Alors les boulimiques qui ont aussi, avez-vous expliqué, des crises d'hyperphagie, doivent-ils ensuite se forcer à vomir, au sens où ils essayent au fond de forcer le rejet, ou bien ce n'est pas si difficile parce qu'ils sont à tel point ils explosent de nourriture, ils ont un dégoût, un vrai dégoût, ils ont la nausée, effectivement.
Alors, c'est vraiment ce qui est le plus caractéristique, c'est vraiment le dégoût de soi, la honte du comportement. Donc au moment de la crise, il n'y a pas le dégoût alimentaire, hein, y a vraiment une recherche d'apaisement d'une tension à travers des aliments plaisir. Mais immédiatement, une fois que cette perte de contrôle est terminée, c'est-à-dire quand elles arrivent finalement à arrêter la crise, il y a un sentiment de dégoût de soi où ces personnes peuvent se décrire comme une baleine échouée, etc., ou vraiment avec des qualificatifs très négatifs envers elles-mêmes. Et c'est ce dégoût de soi qui entraîne la recherche d'élimination de tout ce qui pourrait amener du gras dans le corps.
C'est pas un dégoût vraiment alimentaire, parce qu'on a trop mangé.
C'est ça.
C'est pas
en
tout
fait,
à fait
le
ça.
Le dégoût alimentaire, il découle un peu de ce dégoût de soi, c'est-à-dire que par peur d'avoir ce dégoût de soi qui revient, on va fuir les situations qui pourraient générer ça, donc les situations où il y a des aliments. Donc il y a une peur par rapport aux aliments, il y a du dégoût qu'on retrouve plus dans l'anorexie, du dégoût par rapport à certains aliments, et en particulier les aliments gras. Parce que finalement, ingérer ces aliments donne la sensation qu'on va ressembler à ces aliments gras, qu'on va devenir difforme, etc. Donc il y a vraiment une distorsion aussi, hein, de la perception corporelle qui génère à la fois du dégoût et de l'angoisse par rapport à l'ingestion d'aliments gras en particulier.
Alors on va parler de l'anorexie qui semble être, d'après vos explications, une sorte de dégoût permanent. Essayons peut-être, disons, une évocation, une image, une illustration, ce n'est pas facile, mais il existe un film, Le Voyage de Chihiro, qui nous a été suggéré par l'un de nos autres invités du jour. Il y a encore deux philosophes que j'ai présentés qui vont s'exprimer après cet entretien avec vous, qui êtes psychologue. Le Voyage de Chihiro est un dessin animé de Hayao Miyazaki, produit en 2001. Une petite fille de 10 ans, Chihiro se perd avec ses parents lors d'un voyage en voiture. Il se retrouve dans une petite ville abandonnée. Là, il y a une échoppe regorgeant de plats très appétissants. Et écoutez.
Hé, vous ne sentez rien ? Ah, ça sent vraiment bon par ici.
Je me demande d'où ça vient.
Le parc est peut-être encore ouvert, si on allait voir. Oh. Hé, venez voir ce que j'ai trouvé.
Oh, c'est merveilleux.
S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce parc?
Jiro, viens voir, tu n'as pas faim?
Hé, vous m'entendez?
Allez, ne t'en fais pas, ça n'a pas d'importance. Mange, on paiera plus tard.
Tu as raison. Tout ça est vraiment très appétissant.
Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau? Quelle merveille! Chihiro, tu ne sais pas ce que tu rates.
J'en veux pas! Je veux seulement qu'on parte! Les gens du parc vont pas être contents!
Ne crains rien. Tu es avec papa, tu ne te feras pas gronder. Et j'ai mon portefeuille et mes cartes de crédit.
Tu devrais goûter trésor. Même les os sont délicieux.
Tiens, mon tarte.
Ah, merci.
Papa! Papa, allons-nous-en! Vite, il faut qu'on parte!
Chihiro est donc méfiante, l'appétit n'est pas là. Et puis ses parents qui mangent goulûment se transforment en porc. Et ce sont eux qui la dégoûtent au moins autant que la nourriture désormais avérée comme malfaisante. Ça vous raconte quelque chose que vous connaissez d'un point de vue clinique? Est-ce que c'est une manière pertinente d'approcher pour des gens qui ne sont pas anorexiques ce qu'il y a dans la tête et dans les sensations d'un ou d'une anorexique, Rebecca Shankland?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est une très bonne image pour essayer de, pour arriver à mieux comprendre finalement ce que peuvent vivre ces personnes qui souffrent d'anorexie ou de boulimie, parce que c'est vraiment une émotion très intense, le dégoût, le simple fait de voir effectivement d'autres personnes manger de cette façon-là ou consommer des aliments gras génère ce dégoût qui s'accompagne d'une angoisse, d'une peur aussi de perdre le contrôle, de se retrouver dans cette situation à consommer ce type d'aliments. Il y a un phénomène qu'on appelle la fusion pensée-forme, qu'on retrouve très fortement dans les troubles alimentaires, qui consiste à le simple fait d'évoquer une image d'aliment donne à la personne l'impression qu'elle prend déjà des calories, qu'elle est déjà en train de prendre du poids. Et donc, voir ces aliments et voir des personnes consommer ces aliments leur donne en même temps l'impression déjà de se retrouver avec du gras à l'intérieur. Et donc, ça génère effectivement du dégoût et de l'angoisse.
Pierre Léger, philosophe, vous nous avez suggéré cet extrait qui, semble-t-il, plaît bien à notre psychologue de ce matin pour aborder la question de l'anorexie. Plus largement, est-ce que vous considérez que le dégoût sous toutes ses formes, pathologiques ou non, est bien traité en philosophie?
Je vais justement dire quelques mots, moi, pour revenir sur la position, en fait, un peu instable, un peu périphérique du dégoût dans l'histoire de la pensée en général, et ce qui me permettra ensuite, vous allez voir, d'en arriver plus précisément à la question du dégoût alimentaire.
Oui.
Alors en fait, tout d'abord, faut dire que le dégoût, c'est une émotion importante, parce que Charles Darwin, dans L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, qui publie en 1872, va en faire une des 6 émotions primaires et universelles, aux côtés de la peur, de la joie, de la surprise, de la tristesse et de la colère. Et pourtant, cette émotion, elle a longtemps été laissée un peu de côté par les philosophes et les chercheurs. Et d'ailleurs, il y a un article du New York Times en 2012 qui compare le dégoût à la Cendrillon des émotions, ils disent, pour expliquer en fait que si ces sœurs émotionnelles, donc la joie, la colère, la peur ou la tristesse, ont attiré l'attention des psychologues et des chercheurs, lui, le dégoût, il aurait un peu été laissé dans l'ombre, laissé à la marge de la connaissance. Donc, en poussant cette analogie avec le conte, on peut penser que le dégoût, c'était pourtant l'émotion la plus intéressante. Et d'ailleurs, voilà, ça y est, on pourrait dire, l'heure du bal a enfin sonné, puisque le dégoût, il entame depuis quelques années une phase de réhabilitation.
Depuis quelques années ?
Depuis, en gros, les années 90, je dirais.
Et pourquoi, d'après vous ?
Pourquoi ? Parce que les... Parce que les... disons, les psychologues sont peut-être, les psychologues et les philosophes en général se sont peut-être moins concentrés sur la question du goût au sens classique, c'est-à-dire en gros sur la question du beau, du joli et à la limite de son envers qui est la laideur, et se sont plus ouverts à l'ensemble des catégories esthétiques, à l'ensemble des affections possibles de la sensibilité, et donc ont réhabilité, on pourrait dire, des catégories plus originales, comme l'horreur, sur lesquelles a travaillé Claire Marga, comme le dégoût aussi.
Voilà. Est-ce que vous suggérez que le goût et l'odorat, qui sont considérés souvent comme les sens les plus archaïques, les moins nobles, si on envisage de penser l'humanité de cette façon, et peut-être que ça a été pensé longtemps de cette façon, reviennent, sont des sens très intimes, qui rappellent peut-être une époque où les humains n'étaient pas debout, mais c'était des hommes préhistoriques, encore à quatre pattes. C'est ce que dit Freud, c'est ce que dit Walter Benjamin quand il rappelle que le 19e siècle, par exemple, est un siècle du regard, de l'œil, du visuel, et l'odeur, tout ça, c'est moins important. Heureusement qu'on a des gens comme Proust pour contester la chose un peu de l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, tout à fait. Bah, déjà, Platon, dans l'Hippias majeur, il dit que le beau, ça ne dépend pas des sens distaux, des sens proximaux, donc des sens du toucher, du goût et de l'odorat. C'est vrai qu'effectivement, il y a à l'intérieur, au contraire des sens distaux, donc de la vue et de l'ouïe, la possibilité d'une sorte de mise à distance qui permet au jugement de goût sous une forme assez épurée de s'exprimer. Et il pourrait y avoir l'idée, par contre, dans les sens proximaux, d'une sorte de contamination, quelque chose qui reste de l'ordre du trop physiologique, en fait, du trop corporel. Voilà. Donc, ça a été peu étudié, peut-être pour cette raison-là aussi.
Alors, vous, Claire Marga, qui adorez réfléchir au dégoût, vous vous sentez, en effet, un peu minoritaire dans la communauté philosophique. C'est pas le sens qui intéresse le plus les philosophes, d'être dit.
Oui, en tout cas, ça intéressait pas, quand j'ai fait ma thèse, les spécialistes de l'esthétique. Mais j'irais jusqu'à dire quand même que ça fait un moment qu'on s'intéresse au dégoût. Puisque moi, je suis partie de Sartre, de la nausée et de ses analyses, et de Georges Bataille, pour découvrir un auteur que je trouve très important, qui a écrit dans une revue de phénoménologie un essai sur le dégoût. Donc,
On va en parler, on lira un extrait, il s'appelle Aurel Kolaniy, voilà. Il est hongrois.
Kolnay,
on dit, oui. Pardon.
Ce que je pense, c'est qu'il y a eu un intérêt pour le dégoût, et il y en a plusieurs, mais ça peut être par exemple lié au surréalisme, ça peut être lié à différentes formes esthétiques transgressives, encore plus maintenant, et au cinéma, certaines formes cinématographiques. Donc, je pense que être philosophe, c'est s'intéresser aux choses qui n'ont pas été traitées. C'est-à-dire, moi, j'aurais préféré lire un livre déjà écrit sur un sujet qui m'intéressait, mais comme il n'existait pas, je me suis penchée sur le sujet.
Alors, si on est d'accord que, par exemple, la vue est devenue le sens roi de la modernité, de l'époque contemporaine, invention de la photo, du cinéma, etc., il est indéniable que la laideur a beaucoup intéressé écrivains, poètes et philosophes au XIXe siècle déjà, Baudelaire, La Charogne, la laideur aussi est un vrai enjeu. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on redécouvre le sens gustatif davantage, c'est ce que vous dites, fait que, eh bien, son envers, c'est le dégoût et c'est le même processus qui se passe avec le goût qu'avec la vue?
Je dirais quand même que la photographie et ensuite le cinéma, surtout ce qui est documentaire, peut nous mettre face à des images traumatisantes qui ne sont pas la même chose que des peintures qui sont des fictions. Donc ça aussi, c'est très important. Je pense par exemple à Georges Bataille qui regardait des photos de supplices chinois, qui trouvait horrible. Et il y a une sensation de dégoût qui peut se transmettre par une image. Mais évidemment, c'est de la mimésie, c'est de la représentation.
Donc c'est pas un vrai dégoût gustatif. En fait, même quand on parle de dégoût en esthétique,
non.
On parle encore du visuel, c'est ça la chose. On parle encore d'une forme de laideur qui génère en nous des émotions complexes, mais pas seulement visuelles, certes, mais pas non plus seulement gustatives, et certainement pas puisqu'on ne goûte pas les tableaux.
Bien sûr.
Donc le dégoût est traité, mais par ce mode médiatisé.
Oui,
la vue, l'imaginaire en général.
Mais je pense qu'il peut y avoir une esthétique, par exemple des parfums, et encore, puisque vous en traitez aujourd'hui, des sensations culinaires, qui n'a peut-être pas été traitée, mais ça peut très bien être proposé.
Alors écoutez cette archive de France Bleu. C'était une émission intitulée « C'est trop bon » le 27 septembre 2019 qui proposait un reportage dans un musée éphémère suédois ayant fait escale à Nantes, et ce musée s'appelle le Disgusting Food Museum. Sont présentés les plats les plus dégoûtants du monde.
Et ici on a le souk à loup, on est sur un fromage où on a fait boire le lait maternel à un chevreau, et en fait on a tué ce chevreau avant qu'il ait digéré, et les enzymes présentes dans l'estomac font que ça crée comme ça ce fromage. J'aurais peut-être dû vous faire goûter avant d'en expliquer.
Ça ressemble à des petites boulettes de fromage frais.
Il vient de Sarlay.
C'est très 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 fort, ouais.
Mmh. Ah oui, oui. Mmh.
Ça va quand même habiller le palais pour toute la soirée. Hein.
Ici, on a un produit islandais qui est du requin fermenté, donc avec du requin qui vient du Groenland. L'odeur est très forte aussi ici. Et ça demande une préparation particulière, puisque si le requin...
Non.
Si. Le requin n'a pas de rein, en fait. Donc s'il est mal préparé, il transpire son urine. Ben, voilà, vous imaginez bien. Donc ça demande une préparation particulière, pas que ce soit toxique.
Un vieux matelas rempli d'urine.
Ah ouais,
ouais, là, c'est...
Ouais, ça pique, hein,
Oui, voilà, l'ammoniaque, on sent en effet. Je termine avec cette boisson. C'est un alcool à base des glandes anales de castor. Et la glande anale de castor est aussi reconnue parce que c'est un arôme naturel de vanille. Donc je vous laisse goûter, vous allez voir, on ressent certaines...
On doit sentir la vanille.
Oui, non.
C'est parti, allez, si, il faut y aller. Hein.
La vache.
Ça ressemble un peu de loin à Knightley Whisky. Vous savez, les whiskies très turbés, là.
C'est bon. Moi, je trouvais que c'était une bonne surprise par rapport à la description.
Alors là, ce n'est pas du visuel, ce ne sont pas des mots comme Baudelaire décrivant la charogne, ce ne sont pas des choses qui nous font réfléchir à la sensation de dégoût, voire l'évoque, la sollicite. C'est vraiment du dégoût gustatif direct, matériel, Pierre Léger. On goûte et, surprise, le dégoût n'est pas forcément là tout de suite.
Oui, alors c'est vrai que... de manière générale, on peut dire quand même que les artistes se sont vraiment emparés depuis l'Antiquité du dégoût, à la fois pour le représenter et pour le faire ressentir aux spectateurs. Et c'est vrai que donc il y aurait comme ça beaucoup d'exemples, mais déjà on peut penser à tous ces Jésus crucifiés sur sa croix, donc qui permettaient l'édification religieuse. On peut penser à la mort d'Hippolyte à la fin de Phèdre de Racine, à Sade, à la Charonne, vous en avez parlé, à beaucoup d'expérimentations de l'art contemporain aussi qui vont utiliser du sang, des excréments, du sperme, de l'urine, etc. Et qui jouent tous sur cette espèce d'étrange couple entre répulsion et fascination. On pourrait dire que le dégoût suscite. Et donc, c'est vrai que ce Disgusting Food Museum, donc il y en a un à Malmö en Suède, il y en a un aussi à Berlin, va montrer donc ces nourritures les plus dégoûtantes du monde, et va montrer aussi que, justement, surtout à mon avis dans le cadre alimentaire, c'est particulièrement intéressant pour ça, parce que surtout dans le cadre alimentaire, on voit la possibilité de... Alors, dépasser, sublimer, on pourra en discuter aussi pareil avec Claire Margaret tout à l'heure, mais de dépasser, sublimer ce dégoût, voire même à parvenir à une sorte de jouissance du dégoûtant. Alors, est-ce que toute la question sera de savoir si du coup, est-ce qu'on continue de ressentir comme dégoûtant, mais il y a une véritable jouissance du dégoûtant, ou est-ce que dans cette sublimation, du coup, le dégoûtant devient beau ou devient bon et justement disparaît en quelque sorte.
Est-ce que c'est parce que Claire Marga, c'est comme en parfumerie. Pour faire un grand parfum, il faut parfois des touches. On parle du cuir, on parle des odeurs animales. Elles seules peuvent être un peu mauvaises, mais mariées à d'autres, c'est extraordinaire. Ça donne une profondeur. Enfin, il y a tout un vocabulaire que je n'ai pas dans l'odeur d'un parfum complexe. C'est pareil, d'après vous, sur le plan alimentaire, le goût est d'autant plus raffiné qu'il sait accueillir des choses un peu dégoûtantes à l'intérieur d'une prise alimentaire riche.
Oui, oui, d'ailleurs, c'est ce que Aurel Colnay avait bien constaté. Mais je pense que tout le monde peut très bien se souvenir que quand il était enfant, il y avait des aliments qu'il ne pouvait pas avaler. Et que, à partir du moment où il est adulte, il accepte cette sensation déplaisante, par exemple des huîtres ou par exemple d'autres sensations. Colnay donne l'exemple de la bière. Moi, je me souviens d'avoir goûté de la bière quand j'étais petite. C'était horriblement amer. Je me dis, mais comment des adultes peuvent avaler ça? Et à l'âge adulte, on trouve ça délicieux, alors que, en fait, c'est moins bon que du bon vin qu'on déguste. Donc il y a peut-être des perversions, parce que ce que vous avez décrit, c'est aussi une perversion, c'est que j'arrive à goûter quelque chose.
Ce que j'ai décrit, ce que décrit le reportage,
oui, le reportage,
le musée dégoûtant là.
Voilà, c'est que il peut y avoir de la perversion dans le dégoût. C'est très connu.
Le goût d'inverser, on préfère ce qui est dégoûtant.
Voilà, et en plus, en réalité, dans beaucoup de civilisations, on valorise quelque chose qui est en fait un peu dégoûtant.
Au sein d'un mélange, mais parfois pour soi-même.
Oui, comme l'exemple de certains fromages très forts, ou des choses comme ça.
Alors que le pourri ou le moisi, qui est parfois présent, même visuellement sur un fromage, devrait, enfin, compte tenu de, s'il existe un sens commun du goût, nous dégoûter, en fait, on a appris que c'était bon. Enfin, qu'on peut aimer.
Enfin, on peut aimer quelque chose qui pourrait aussi apparaître dégoûtant. Et puis là, je pense que faudrait revenir à l'analyse de Colnay, qui est fondatrice de ça. Puisqu'il y a effectivement, comme vous venez de le dire, un lien entre pourriture et nourriture. C'est pas seulement une rime riche, c'est que toute nourriture est potentiellement pourriture. Parce que c'est du vivant, et donc ça peut pourrir, que ce soit des fruits, la viande.
C'est de l'organique.
Ouais. Voilà, c'est de l'organique, et donc c'est potentiellement de la pourriture. Après, il y a des gens qui sont complètement obsédés, qui pensent que c'est peut-être mauvais, et d'autres qui s'en foutent. Et je pense qu'il faut se resituer dans notre époque où nous avons tous des frigidaires, alors qu'à une certaine époque, la conservation posait problème. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus tatillon sur le fait qu'on ne doit pas gérer du pourri.
Alors, ces protecteurs, suggérez-vous parfois le dégoût? C'est ce qui se produit quand on a l'impression qu'un aliment n'est plus très frais.
Oui.
Le caractère protecteur du dégoût a été évoqué par plusieurs penseurs. Il est aussi parfois mis en scène dans encore un film d'animation, mais il se passe des choses importantes dans les films d'animation. Vice Versa, des studios Disney et Pixar, a été réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del Carmen en 2015. Il met en scène une petite fille qui vit dans le Minnesota, beaucoup d'émotions. On entre alors dans son cerveau, chaque émotion est représentée par un petit personnage. Le dégoût est présent, vous allez écouter. On observe tout ce qui se passe entre les émotions-personnages.
Je m'appelle Tristesse.
Oh, bonjour Tristesse, je m'appelle Joie.
Bon,
excuse-moi. Tu permets, je vais arranger ça.
D'accord.
Et ça ne faisait que commencer. Le quartier cérébral allait devenir un hall de gare.
Remarquable. Ok, on est hors de danger. Merveilleux. Là, non, viens.
Je vous présente Peur. Avec lui, Riley est en parfaite sécurité.
Doucement, attention. On est bon. Merci, je n'ai fait que mon devoir.
C'est parti.
À nous deux. Allez, ouvre la bouche.
Tiens, c'est nouveau.
Ça se mange, ça?
Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi, cette horreur?
Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement.
La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est des brocolis!
Berk!
Voilà, je viens juste de nous sauver la vie. Je sais.
Le dégoût sauve la vie. C'est une vision juste, Pierre Léger, mais insuffisante.
Oui, alors dans ce test de vice-versa, là, on parle généralement de néophobie alimentaire, donc pour parler de cette phase qui est normale et généralement, on l'espère, transitoire dans le développement de l'enfant et qui va du coup consister à refuser de goûter certains aliments nouveaux. Ce passage de vice-versa, ça illustre bien vraiment une approche évolutionniste du dégoût, où le dégoût alimentaire, oral, il consiste pas seulement dans le rejet, en fait, de quelque chose qui serait pas bon, mais il provient plutôt d'un jugement qui est vraiment très primitif, très spontané, de la chose, de l'aliment comme contaminant, comme une nourriture qui pourrait être éventuellement toxique. Et du coup, le dégoût, ce serait une sorte de signal d'alarme incarné, instinctif, et qui a vraiment un rôle protecteur. Dans la littérature anglophone, il parle de gatekeeper emotion, donc c'est pas forcément facile à traduire, mais en gros, on pourrait le faire en disant que c'est une émotion gardienne, une émotion portière, qui nous protège de quelque chose qui pourrait être nocif, qui peut nous mettre en danger. Donc cette approche, elle est intéressante, mais elle est aussi peut-être limitée par son caractère peut-être justement un petit peu trop physiologique, trop mécanique, on pourrait dire, parce que comme on a déjà commencé un petit peu à le dire, à l'expliquer, les dégoûts ensuite s'inscrivent dans une dimension sociale, dans une dimension culturelle, ils peuvent être retravaillés, repris, et donc, même s'il y a certainement cette mécanique physiologique évolutionniste au départ, elle est en général réinterprétée à l'intérieur des contextes culturels, pour se complexifier aussi en même temps.
Nous parlons du dégoût ce matin, et aussi, sans tout mélanger, des troubles alimentaires, c'est pas exactement la même chose. Nous sommes dans un nouvel épisode de la série de cette semaine sur les nourritures. Je suis en compagnie de deux philosophes, Pierre Léger et Claire Marga, et à distance, Rebecca Shankland, qui est psychologue, a entamé cette émission en nous parlant des dégoûts à l'intérieur des grandes catégories de troubles alimentaires. Claire Marga, vous enseignez l'esthétique, enfin vous êtes l'art et grande partie de votre vie. Je voudrais comprendre, lorsque Baudelaire nous dépeint la charogne, veut-il nous dégoûter ou veut-il aussi nous faire comprendre que ce qui est dégoûtant est beau, peut être mis, ça fait partie des choses du monde, il y a quelque chose de beau dans le lait et dans le dégoûtant. Mais lorsque Chardin montre une raie sanguinolente, alors je ne sais pas si elle est pourrie, vous allez me le dire, vous connaissez mieux ce tableau que moi, est-ce qu'il veut susciter du dégoût sur le plan physique? Ou bien est-ce qu'il veut nous montrer que ce qui est appétissant un jour est dégoûtant, comme ça, selon l'angle du regard? Veut-il nous montrer que c'est beau? Ou au contraire, veut-il quelque chose de plus radical en termes de rejet, quoi, esthétique de ce qu'il fait et ce qu'il montre?
Alors, je pense qu'il y a deux questions. La première, c'est ce que Baudelaire dit de la charogne. Effectivement, Baudelaire décrit une charogne longuement et il termine en disant nous sommes devant le spectacle de notre devenir. Nous serons nous-mêmes charognes. Donc, il veut non seulement nous toucher par le dégoût, mais en fait, le dégoût nous touche intimement. Et donc, c'est une sorte de vanité, on pourrait dire, qui s'étale devant nous.
Ça, et Chardin, alors, parce
que ça. Et donc Chardin, je pense que là, c'est assez classique. C'est Aristote qui le disait déjà. C'est-à-dire que l'imitation d'un objet qui nous fait horreur peut nous intéresser parce que justement nous sommes à distance. On n'a pas l'odeur du poisson, on n'est pas devant le côté réellement sanguinolent qui pourrait nous dégoûter. Si on rentre dans une cuisine, dans les cuisines, si on regarde ce qui s'y passe, on n'aurait pas faim, peut-être. Donc, Aristote, il pense que les bêtes affreuses, les choses dégoûtantes nous plaisent en représentation parce que justement, la représentation nous détourne de la vue en direct. C'est ça qu'il dit et je pense qu'un tableau ne peut pas nous dégoûter.
Alors, je voudrais... Est-ce que vous êtes encore avec nous, Rebecca Shankland?
Oui, tout à fait.
Tout à l'heure, vous avez dit que les anorexiques sont déjà dégoûtés rien qu'à la vue de l'aliment.
Oui.
Évidemment, d'une certaine façon, c'est déjà gagné avant que Chardin ait commencé à peindre une raie en 1827, où Baudelaire a nous dépeint par des mots une charogne. Mais au fond, sont-ils des artistes qui voudraient stimuler en nous la possible anorexie? Alors même que, comme vous venez de le dire, Claire Marga, peut-être qu'on serait dégoûté par la raie réelle, mais avec l'odeur, mais si elle n'est pas pourrie, elle pourrait peut-être aussi nous mettre en appétit, mais avec le tableau, là, c'est fini.
En fait, ça pourrait presque être une façon, justement, de diminuer le dégoût, parce qu'en fait, ce qu'on travaille précisément avec les personnes qui ont des problématiques alimentaires, c'est l'exposition, c'est-à-dire exposer de manière très progressive à des aliments qui habituellement génère du dégoût et de l'angoisse en cascade, pour qu'elle puisse petit à petit prendre confiance et l'environnement va jouer un rôle très important. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la question culturelle aussi joue. Et à travers les tableaux, à travers l'image et puis petit à petit à travers des aliments, en commençant pas par les plus, ceux qui génèrent le plus de dégoût, mais en y allant progressivement, les personnes vont oser aller au contact. Et c'est aussi ce qu'on retrouve avec les enfants concernant la néophobie alimentaire, donc la peur des aliments nouveaux. Le fait d'exposer l'enfant à ces aliments en mettant par exemple simplement un petit morceau de l'aliment dans l'assiette mais sans le forcer à manger, on va l'habituer petit à petit à voir cet aliment et donc à se familiariser, à avoir confiance. Et donc pour pouvoir surmonter finalement cette phase de dégoût par rapport à un aliment qu'on connaît mal ou par rapport à un aliment qui génère du dégoût du fait qu'on a peur de l'ingérer et de grossir, peut petit à petit diminuer ce dégoût. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le traitement des problématiques alimentaires.
Dans vos traitements en tout cas à vous, puisque voilà. Vous faites de la psychologie dite positive ou en pleine conscience, et il y a quand même plusieurs écoles, notamment, non, je me trompe,
alors
sur le traitement des anorexiques.
On travaille très spécifiquement avec des pratiques de pleine conscience, qui consistent en fait à aider la personne à repérer l'émotion qu'elle ressent, donc ici le dégoût, mais sans se laisser emporté par le mouvement que génère l'émotion, qui serait ici de fuir l'aliment, de le rejeter, de ne plus jamais s'en approcher. Donc là, on observe la réaction spontanée qu'on aurait avec cette émotion. Ce qu'on aurait envie de faire, c'est de fuir. Et on n'en rentre pas dans ce mouvement. On accepte d'accueillir l'émotion tout en restant en contact de cet aliment. Et par exemple, dans le traitement, on leur propose de poser l'aliment sur la langue et on leur dit si ça génère trop de dégoût, trop d'angoisse pour vous, vous pourrez le recracher ensuite, mais simplement oser aller à la rencontre de cet aliment, donc développer une plus grande ouverture d'esprit, une ouverture à l'expérience, et petit à petit, ça permet de surmonter cette sensation très intense qu'est le dégoût.
Si cependant le dégoût a à faire avec la représentation de l'organique, qui peut pourrir, qui va pourrir, hein, ça veut dire aussi que là, il y a un nœud très difficile. Donc, certains pensent que c'est parfois, chez certains individus, ça ne se rééduque pas de la façon que vous dites, mais c'est vous la clinicienne. Mais je voudrais aussi, du point de vue de l'analyse, demander à Pierre Léger si cette question de l'organique ne fait pas de nous en puissance des anorexiques toujours, puisque tout ce que nous mangeons, il est très facile de nous le représenter comme plus frais, pourrissant, et alors ça vient vite, hein, le dégoût. Au-delà des troubles alimentaires, le dégoût est une expérience du quotidien qui a à voir avec ce qu'il y a de plus intime en nous, c'est le rapport à l'organique.
Oui, tout à fait. C'est vrai que déjà chez Colna, il y a vraiment cette insistance sur la question de ce qui pourrit, ce qui est en putréfaction, que ce soit dans l'aliment ou dans disons le vivant en général, qui déclencherait du dégoût. Et c'est à mon avis une approche qui est très intéressante, mais je pense qu'il faut aussi se méfier de ces approches, on peut dire objectivantes, c'est-à-dire en essayant de distinguer ou un certain type d'aliment ou une certaine structure d'apparition de l'aliment pour nous, c'est-à-dire s'il apparaît pour nous comme en train de pourrir, parce que le dégoût, il dépend aussi toujours de questions qui sont des questions de situation et en particulier donc de rapport c'est pas seulement une question d'objet, c'est-à-dire c'est une question du rapport de notre corps à un moment à l'objet. Pour donner un exemple très simple, j'adore la raclette, mais si je viens de manger 4 assiettes de raclette, quand on va me présenter la 5e, je vais être dégoûté par cette assiette de raclette. Pourtant, elle ne présente pas de signe particulier de putréfaction. C'est-à-dire, c'est toujours le même objet. C'est vraiment ma relation à l'objet qui a changé.
J'entends, mais on est parti de là. Rappelez-vous, dans l'émission, la satiété qui produit vie du dégoût, même quand l'aliment est bon, sain, etc. Nous sommes passés au dégoût aversion, pour parler comme vous, Claire Marga, qui est un peu plus... Alors, je vous propose de poursuivre en lisant cet auteur que vous connaissez bien, que vous appréciez, qui s'appelle donc Aurel Kolnai. Il était hongrois, il a travaillé avec Husserl, qu'il a publié. Juste un mot, vous l'avez... il y a un texte de 1929, Le dégoût, qu'on va lire, mais ensuite vous avez contribué à sa traduction en français, et aujourd'hui, une grande partie de ses œuvres sont, grâce à vous, chez Circé, c'est ça l'éditeur ?
Oui, alors il a d'abord été, je le dis rapidement parce que ça me prouve bien que cet auteur avait un grand intérêt, il a d'abord été traduit grâce à Judith Miller, la fille de Lacan, dans sa collection, parce que ça pouvait intéresser la psychanalyse lacanienne, et effectivement, Kolnai parle de... chez Freud, du refoulement du dégoût, parce qu'en fait, il y a une attirance des enfants pour les choses dégoûtantes et l'éducation les réprime. Ça, c'est la théorie. Claude Lutz, le directeur de Circé, s'intéressait à cet auteur et il a fait, parce que il a écrit ça à 26 ans, il savait pas ce qu'il allait écrire ensuite. Et il s'est tourné vers, la philosophie morale et politique après son essai sur le dégoût. Et donc, il a écrit sur la haine et les sentiments hostiles chez Circé, ça montre bien que
un recueil de plusieurs textes.
Et je dirais une dernière chose, c'est que Kolnai, qui vivait à Vienne, a senti avec dégoût, on pourrait dire, la montée du nazisme et a écrit un livre très violent contre le nazisme sous un pseudonyme et qui s'appelle La guerre contre l'Ouest. Sur le pseudonyme de Von Helmont. Von Helmont est le médecin qui lutte contre les vampires dans Dracula. Voilà. Et donc, il y a une utilisation de la thématique du dégoût que ça peut être derrière, par exemple, certains comportements racistes.
Alors, on écoute un extrait, je crois que c'est la traduction d'Olivier Cossé, si je ne me trompe pas, en français. Extrait donc du dégoût de Aurel Kolnai.
Tous les aliments sont potentiellement dégoûtants par leur appel à être absorbés. Leur nature poisseuse, moite, plus ou moins sale ou salissante, par les souvenirs qui peuvent y être attachés, et enfin par la relation, apparente ou réelle, qui les associe à la pourriture. Mais il se rencontre aussi une prédilection perverse pour les saveurs légèrement pourries, notamment pour le haut goût du gibier faisandé. On dit que les Chinois se délectent de pourri. Je mettrai cela au compte d'une nation hyper civilisée, bien plus qu'à celui de la différence des goûts surévaluée par les zélateurs du relativisme. Un cas plus répandu et plus anodin concerne le fromage qui sent fort. Il contient quelque chose qu'il faut appeler pourriture. La plupart des gens qui en mangent volontiers en trouvent l'odeur dégoûtante.
Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Cet extrait de Aurel Kolnai à propos du dégoût illustre-t-il, Claire Marga, ce que vous évoquiez tout à l'heure, une dose de perversion dans toute culture? On essaye de...
Oui.
Ou bien autre chose?
Pour Kolnai, plus une culture est raffinée, plus elle peut intégrer le dégoût. Le dépasser.
C'est ça que vous appelez la perversion ou pas du tout? Le dépassement n'est pas du tout la perversion.
Alors, pour lui, s'il y a une dose de perversion dans le fait d'accepter de manger quelque chose qui peut dégoûter. Alors, il prend en plus des exemples culturellement très éloignés, les Chinois, et puis le fait de manger des gibiers faisandés, qui sont dans la... Il y a beaucoup d'aliments qui dégoûtent, en fait. Surtout dans la cuisine française, je dirais. Les andouillettes, les tripes, la tête de veau, enfin, des choses qui ne sont pas très appétissantes pour beaucoup de gens. Mais qui peuvent sembler délicieuses, justement, parce qu'on surmonte un certain dégoût.
Donc, il y a bien une dose de perversion, dites-vous, c'est votre commentaire, dans chaque culture qui considère que s'éduquer gustativement, c'est oui. apprendre à aimer le dégoûtant.
C'est aussi vrai dans la sexualité, c'est ce que dit Kolnay.
Alors, en même temps, la perversion, bon, vous parlez de Georges Bataille.
Oui.
C'est vrai qu'il y a une réflexion chez Bataille sur l'abject. Sur le dégoûtant, vous paraît-elle valorisée, valorisante aussi pour celui qui sait en faire l'expérience de tout cela chez Bataille?
Alors, je ne parlerai pas de ses œuvres littéraires, hein, mais beaucoup plus de ses essais, disons, anthropologiques. Parce que, effectivement, quand il lit Kolnay, c'est pour montrer que dans toute société, on exclut quelque chose. Alors, comme on exclut des excréments, alors je rappelle la liste de Kolnay, il y a des objets dégoûtants pour toute culture, on pourrait dire, la pourriture, les excréments, les sécrétions du corps, les crachats par exemple, et la saleté et la crasse. Et c'est vrai que plus l'utilisation est raffinée, plus il y a d'hygiène, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Hein. Ensuite, il y a certaines bêtes, les vers, les vermines, et quand on en arrive aux aliments, la dimension des aliments, c'est qu'effectivement, là, il donne des exemples de choses qui pourraient être dégoûtantes, mais qui plaisent.
Donc, là, vous parlez de Kolnay ou de Bataille?
Oui. Excusez-moi. Bah, dans le cas de Bataille, je pense que Bataille, il reprend chez Kolnay le fait que ce qui nous dégoûte nous fait plaisir aussi, ce qui est aussi une idée freudienne. Il y a une ambivalence du sentiment.
Et chez Sartre, alors, vous dites que Sartre a sans doute lu Kolnay. La nausée, c'est a priori quelque chose qui évoque le dégoût gustatif, enfin de l'ordre du goût au sens vraiment premier du terme. Est-ce que la nausée ne signifie pas, malgré tout, beaucoup d'autres choses? C'est une métaphore, le Bien dégoût sûr. Et la nausée, plus qu'un sens propre. Cela dit, il y a une vraie scène de vomissement dans la nausée, où, à un moment donné, tout cet organique très vivant fait vomir au Quentin.
Alors, je pense que pour la nausée chez Sartre, c'est vraiment de l'existentialisme. Il se dégoûte lui-même, le monde le dégoûte. C'est comme on dit, je ne peux pas l'avaler. Enfin, il y a vraiment un dégoût généralisé, un spleen, on pourrait dire. Et d'ailleurs, Sartre voulait appeler son roman « Mélancolia ». Et son éditeur a eu bien raison. Et il lui a dit « Non, on va l'appeler la nausée ». Ce qui caractérise beaucoup plus la sensation du rapport au monde et à soi-même qui est décrite dans la nausée, qui n'est pas un rapport à l'aliment.
Pierre Léger, vous êtes philosophe. Le fait qu'un auteur important dans la philosophie du XXe siècle mette quelque chose comme la nausée, donc le dégoût, en fait un concept. En fait, c'est un concept chez Sartre. C'est important aussi dans la philosophie du dégoût ordinaire.
Oui, bien sûr. En fait, on peut distinguer des différents régimes de dégoût. On pourrait dire ça comme ça. On a parlé aujourd'hui pas mal de dégoût physiologique. On a parlé aussi d'un dégoût esthétique quand on a parlé de la raie, de la charogne. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais toute la question morale aussi qui est liée au dégoût quand on dit d'une attitude de quelqu'un, ça me dégoûte, etc. Et dans le cas de Sartre, on voit là vraiment un dégoût sous sa forme existentielle, c'est-à-dire sous une forme généralisée, qui est un dégoût finalement devant quoi? Devant la nature même de l'existence, devant...
C'est-à-dire le pourrissement, mais l'organique lui-même, quand il grouille de vie. D'ailleurs, on dit parfois que les vers qui grouillent, ça suscite du dégoût, et là, c'est pas le pourrissement, c'est en un sens même le contraire, parce
qu'il y a
peut-être du pourri sur lesquels les vers s'acharnent, mais il y a de la vie pas pourrie du tout.
Exactement, c'est la plénitude de vie du monde qui est là, dans sa contingence, sans raison, sans pourquoi. Donc, à la fois la plénitude de vie du monde, mais aussi de mon corps moi-même, parce que c'est Sartre, il y a ces scènes où il prend conscience de son propre corps devant la glace, etc., qui, aussi le dégoûte, parce que voilà, c'est aussi une plénitude de vie.
Rebecca Shankland, vous êtes toujours là?
Oui, tout à fait.
Psychologue des troubles des conduites alimentaires. Vous nous avez décliné les grandes catégories de troubles du comportement alimentaire. Là, nous venons d'évoquer aussi les perversions. Alors, est-ce que les pervers si existent pour vous dans le domaine alimentaire? Viennent-ils vous voir ou au contraire, comme souvent, les pervers, ils n'en souffrent pas, donc ils ne viennent pas voir? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
Non, effectivement, c'est pas forcément les personnes qui viendraient consulter, puisqu'il n'y a pas forcément une souffrance psychologique associée, mais peut-être juste pour avancer sur cette question de comment on peut aller vers une culture où on peut dépasser finalement le dégoût. Je pense un aspect important, c'est vraiment de pouvoir déjà le respecter chez l'enfant, donc pas forcer la main quand il y a du dégoût, et petit à petit justement créer un climat de confiance qui va permettre de surmonter le rejet, l'évitement, pour pouvoir aller vers cette découverte.
Bon, vous voulez un dernier mot, Claire Margat, je vous le donne.
Oui, alors je voulais parler d'un film qui résume un peu les idées de Kolnay. Et en fait, il y a même deux films. Il y a La Grande Bouffe de 73, qui est un film où l'excès de nourriture... Alors c'est un film qui a dégoûté la critique. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Oui, ça a été un scandale. Voilà, et on se tue pas en mangeant des mets délicieux. Il y a des scènes scatologiques. Bon, et un autre film de Buñuel, Le Fantôme de la Liberté, où il y a une scène absolument comique où on voit des gens être reçus chez d'autres, une famille bourgeoise. Tout le monde s'assoit sur des WC. Et on se met à discuter, et on demande, mais où est la salle à manger? On va se cacher pour manger. Et donc, c'est une inversion. Oui, c'est une inversion surréaliste, évidemment. Mais ça pose une question philosophique et d'un étonnement. Pourquoi les excréments et le fait d'éjecter des excréments, c'est quelque chose qui est refoulé? Et pourquoi le fait de faire entrer des aliments dans le corps est au contraire un lieu de socialité? Et puis, si on inverse, évidemment, ça devient d'un comique absolu. Voilà.
Je dédie cette chanson à tous ceux des générations passées, futures ou à venir, qui ont eu, ont ou auront à souffrir de la bouillie. Bouillie du matin, chagrin. Non, je ne mangerai pas ma bouillie. Manger, non. Pour grossir aussi, non. Allez, attention, je compte, hein. Une cuillère pour maman, oh. Une cuillère pour papa, oh. Une cuillère pour tonton, oh. Une cuillère pour tata. Non, 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 je ne mangerai pas ma bouillie.
Vous écoutez Pierrot Sépu, dit Pierrot, chanteur français dont le nom de naissance était Pierre Favre, qui en 1977 chante « Non, je ne mangerai pas ma bouillie ». Merci beaucoup Pierre Léger, Claire Margat et Rebecca Shankland. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au titre et à la gloire. Aujourd'hui, il se demande comment on pourrait se passer de titre. Voici le pourquoi du comment.
Comment peut-on se passer de titre? La notion de titre qui paraît extérieure, justement, ne l'est pas. Elle pose au contraire le problème de la distinction entre les êtres humains qui ne doit pas se fonder seulement sur une norme ou sur une forme extérieure, comme le titre semble y obliger, mais sur une vraie dimension intérieure, sur des actes, sur des contenus intérieurs. Ainsi, le maître ne doit pas être seulement celui qui est institué comme tel par la société, mais celui qui est reconnu comme tel par le disciple. Et dès lors, on a envie de critiquer la notion de titre, car elle semble nous entraîner vers l'extériorité sociale, vers le pur pouvoir normatif de la distinction au sens des sociologues, sans nous permettre d'accéder au contenu moral ou esthétique des actions ou des œuvres des êtres humains. On ne doit pas juger des hommes ni des œuvres seulement par les titres, mais les lire, bien entendu, ou les connaître directement et de l'intérieur. Il y a donc dans toute la tradition philosophique, morale, politique, esthétique et de l'humanité, une tendance aussi à contester la notion de titre, à vouloir se passer de titre. Cela va de la morale la plus radicale, par exemple la morale de l'héroïsme, le héros étant celui, comme le dit très bien Vladimir Jankélévitch, qui refuse le titre de héros. Celui qui dit « je suis un héros », il ne l'est pas. Par définition, on peut lui donner toutes les médailles qu'on veut, ce ne sont pas les médailles qui font le héros, c'est l'héroïsme et aussi la modestie, la simplicité du grand homme de bien qui ne demande, qui ne réclame aucun titre, qui dépasse tous les titres et qui, par là même, les mérite tous, mais les mérite tous en quelque sorte, a fortiori. Le titre de gloire, c'est justement celui que la personne n'a pas cherché. Alors, la gloire elle-même, justement, n'est pas un titre, mais un rayonnement de la personne qui est au-delà de tous les titres. Et d'un autre côté, du côté de l'art, il y a évidemment des artistes, notamment au XXe siècle, qui non seulement n'ont pas donné de titre à leurs œuvres, cela a toujours été le cas, par exemple pour une œuvre inachevée, une œuvre en fragments, un rassemblement de textes dont on fait œuvre, comme des correspondances ou des fragments, encore une fois, comme les pensées de Pascal, mais il y a aussi une contestation explicite de la notion même de titre. Il y a ce paradoxe, par exemple, d'un livre d'un grand logicien dont le titre était « Quel est le titre de ce livre ?» et c'était le titre du livre. C'était pour nous faire réfléchir à la manière dont le titre désigne un objet dans un espace social avec cette forme de paradoxe. Oui, et je peux le ranger dans ma bibliothèque, je l'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque. Quel est le titre de ce livre? Et cela fait rire tous les gens qui passent devant, parce qu'il y a un usage critique de la notion de titre. Mais devant une peinture, de Marc Rothko, par exemple, cette série incroyable de monochrome ou de bichrome ou de trichrome qui s'intitule justement « Untitled ». Untitled, parfois tout court, Untitled Number One, œuvre sans titre. Eh bien, l'œuvre sans titre désigne quelque chose comme précisément un usage paradoxal du titre. Un usage paradoxal du titre qui désigne aussi la critique de la représentation dans l'œuvre elle-même, avec quelque chose qui, malgré tout, nous entraîne en elle. Entraîner dans l'absence de titre, c'était entraîner non pas dans l'informe, mais dans l'expression pure de la forme et de la peinture, de la couleur. Par exemple, dans la chapelle Rothko à Houston, les œuvres n'ont aucun titre, même si la chapelle porte le nom du peintre. Eh bien, dans ses œuvres sans titre, on n'est pas plongé dans l'informe absolue, dans l'indistinct, dans une contestation extérieure du titre pour lui-même, mais au contraire dans une réflexion sur ce qui dépasse tous les titres et qui, en même temps, est le sommet de l'art, le sommet de l'expérience humaine. Comment peut-on se passer de titre? C'est une vraie question, au-delà de toutes les distinctions.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Dalia. Merci aux équipes d'ICI Isère pour le duplex de ce matin. L'émission a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Anna Feulpin, Chaïma Giboire, Axel Dubois, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.